qui soutient toute chose par sa parole puissante, qui a tout créé, accepte vraiment de venir parmi nous, accepte de cheminer avec nous, de nous appeler ses amis et de nous permettre de marcher avec lui, porté aussi par l'espérance qu'il nous ouvre. Je suis très très heureux d'être à nouveau parmi vous. On s'est quand même vu pour un certain nombre, pas mal de fois ces derniers temps, ceux qui étaient à la convention, donc on a eu vraiment l'occasion de se voir et de passer quelques jours qui étaient bienfaisants à la fin du mois de juillet. Juste pour, on ne l'a pas signalé, mais je pense que l'église de Villefranche était à la convention l'église qui était proportionnellement la mieux représentée. Vous étiez au moins, je ne sais pas, 70% de l'église, je pense, présent à la convention, ce qui était le cas d'aucune autre église. En tout cas, voilà, bienfaisant de partager tous ces moments, et puis maintenant d'être ensemble aussi, et de pouvoir ensemble lire la parole de Dieu. Et je voudrais juste vous lire, donc, nous allons méditer un texte des évangiles, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, la rencontre de Jésus avec ceux qui formeront le noyau de ses premiers disciples, et en particulier avec Pierre. Et je crois que c'est important, intéressant pour nous de situer cette rencontre, pas simplement comme une rencontre qui a lieu là dans l'histoire quelque part, mais l'évangile de Jean nous rappelle ce que nous avons justement rappelé, que vraiment Jésus est celui qui est venu de Dieu. Il est ce Verbe, celui qui a créé toutes choses. Il dit, celui qui est la parole créatrice est venu parmi nous, a été faite chair, a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons goûté à cette grâce et à cette vérité, nous dit l'évangéliste Jean. Et donc, cette parole éternelle qui nous rejoint, qui vient vers nous, s'adresse aussi à une personne en particulier, qui est Pierre. Je vous invite donc à lire Jean chapitre 1, les versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus regarda Simon et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Voilà cette rencontre en quelques mots, très dense, mais que je voudrais que nous méditions ensemble ce matin. Il est question ici du regard de Jésus posé sur Simon. Jésus posa son regard sur Simon et lui dit. Et ça nous amène à nous demander, est-ce qu'il nous arrive de nous demander quel est le regard que l'on porte sur nous, le regard que l'on peut porter sur nous? La question est redoutable. Nous sommes tous sensibles à l'image que nous donnons. Être apprécié, sentir que nous comptons pour ceux qui nous entourent, cela peut nous donner des ailes. Par contre, avoir l'impression d'être mal vu, ou avoir l'impression que nous sommes transparents, que nous comptons pour personne, cela peut nous décourager, nous insécuriser profondément. Et c'est vrai que le regard des autres compte pour nous, c'est indéniable. Est-ce qu'il nous arrive de manière plus précise de nous demander quel est le regard que portent sur nous ceux qui nous aiment? La question est encore plus cruciale. On peut relativiser le regard des autres en général, mais le regard de ceux que nous aimons est une force, a un impact qui est considérable. Nous arrive-t-il de nous demander plus encore quel est le regard que Dieu porte sur nous? La question est encore plus importante, car ce regard de Dieu, c'est sa vérité sur notre vie. C'est ce qui nous donne ou non une perspective dans la vie. Car le regard de Dieu a ceci de particulier, qui n'est pas une simple opinion, il est créateur, il est décisif de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas Dieu pour savoir quel est son regard sur nous. Comment nous représenter ce regard? L'Évangile nous dit qu'en effet, personne n'a jamais vu Dieu. Mais il ajoute, et c'est magnifique, que Jésus, le Dieu Fils unique venu vers nous, Jésus est celui qui nous l'a fait connaître. Et c'est ici que les rencontres de Jésus avec les uns des autres, lorsqu'il était sur terre, nous disent parfaitement la façon dont Dieu nous voit aujourd'hui, dont Dieu veut nous rencontrer. Et nous l'avons dit, cette première rencontre entre Jésus et Simon-Pierre se joue beaucoup sur les regards. Jésus fixe son regard sur Simon et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, désormais tu seras appelé Pierre. » Il a là un regard qui embrasse le présent, « Tu es Simon », qui embrasse le passé ou l'histoire, « Fils de Jonas », et qui se porte vers l'avenir, « Désormais tu seras Pierre », c'est-à-dire un roc. « Tu es Simon », déclare Jésus. Et j'aime beaucoup que Jésus commence par désigner Pierre par le présent plutôt que par le passé et l'avenir. Heureusement que Jésus n'a pas dit à Simon, « Ah, voilà le fils de Jonas, Simon, que j'appellerai Pierre. » Parce que le pauvre Simon se serait alors retrouvé comme pris en sandwich, écrasé, étouffé entre son père et Jésus. Il ne serait qu'un nom sans grande consistance entre les deux. Jésus tient à lui dire « Tu es Simon ». C'est bien lui qu'il considère, et non pas le fils de son père. Et cela, il tient à le dire d'emblée. Lorsque Jésus nous dit « Tu », c'est un vrai « Tu » qu'il nous adresse. Son intérêt pour nous n'est pas l'intérêt pour le fils ou la fille d'un tel, ou pour le frère ou la sœur d'un tel. C'est pour nous personnellement qu'il s'arrête, c'est vers nous, c'est sur nous personnellement qu'il porte son regard. Mais Jésus ne dit pas non plus « Ah, voici celui qui doit être Pierre le roc, Pierre le rocher ». Cela aussi, ce serait difficile. Parce que ça placerait Simon sous une espèce d'obligation de performance. Tu ne comptes que pour ce que tu dois devenir. Tu ne comptes que pour ce que je veux que tu sois. Quelle pression ce serait si Jésus ne nous aimait qu'à cause de ce qu'il attend de nous. Quel drame pour Pierre, tout au long de sa marche avec Jésus, s'il avait senti que Jésus ne l'aimait que comme roc solide, inébranlable, lui qui n'était pas vraiment solide. Mais quel réconfort avec les fluctuations qui étaient celles de Simon, de se souvenir que Jésus lui avait dit « Tu es Simon, et c'est de toi que je veux faire un roc ». Alors là, ça veut dire que Simon a le droit d'être Simon. Il peut se tromper comme Simon se trompe parfois. Il peut être soupolé comme Simon l'est parfois. Il peut avoir ses élans qui n'aboutissent pas comme cela arrive avec Simon. Et avec tout cela, il peut se savoir aimé comme Simon, accompagné comme Simon, pris par la main, pour être conduit peu à peu vers quelque chose de plus solide. Tu es Simon. Jésus vise plus loin pour Simon, comme pour nous, il ne faut jamais l'oublier, mais Jésus s'attache à nous, à notre personne. Jésus sait très bien la distance au moment où il parle entre ce qu'est Simon l'inconstant et Pierre le roc qu'il vise, mais ça ne l'empêche pas de dire « Tu es désormais tu seras. Tu es Simon. » Juste mesurons l'équilibre de ces paroles. C'est tellement bienfaisant, tellement réconfortant que Jésus parle de cette façon-là. Jésus dit aussi, « Tu es Simon en toute connaissance de cause. » On sait que c'est le regard de Dieu lui-même qui nous est renvoyé. Et Dieu nous voit parfaitement tels que nous sommes, avec nos pensées, nos motivations. Ils sondent tout, tu me sondes, tu me connais, tu connais de loin mes pensées, rappelle le psaume 139. Et Jésus voit Pierre avec certainement quelque chose de ce regard-là, mais ça ne l'empêche pas de l'appeler Simon, de venir vers lui. Il voit ce que nous sommes, et pourtant, il ne désespère pas de nous. Il voit ce qu'il peut faire de nous, le Seigneur Jésus. Jésus ne dit pas, « Mon pauvre Simon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec toi ?» Il dit, « Tu es Simon, avec ce que tu es, on va avancer. » Mais Jésus dit très nettement, « Toi à Simon, tu es Simon, tu seras appelé. » Il y a d'autres gens autour, il y a André, il y a le premier cercle des disciples. André a été le premier avec Jean, qui ne se mentionne pas, à venir vers Jésus. Et c'est André donc qui est allé chercher son frère Pierre. Mais Jésus ne les compare pas l'un à l'autre. Tu es, il parle à Simon tel qu'il est. Nous nous comparons souvent aux autres. Ah, si j'avais ces facilités, si j'avais ces capacités d'adaptation, si j'avais ces talents. Jésus lui s'adresse à nous simplement. Nous renvoie à nous-mêmes. Tu es Simon et c'est toi qui seras Pierre le roc. Ne passe pas ton temps peut-être à rêver d'être comme un tel, comme une telle, c'est toi qui m'intéresse. C'est avec toi que je veux faire quelque chose. Jésus nous dit, toi, oui. Et nous parfois nous disons, et lui et elle. Un jour, alors que Jésus parlait à Pierre justement de ce qu'il voulait faire avec lui, Pierre a eu ce même réflexe, il s'est tourné vers l'un de ses collègues, Jean, et dit, et lui, qu'est-ce qui lui arrivera ? Jésus a dit, mais que t'importe, toi, suis-moi. La force de ce tu. Jésus nous prend là où nous sommes, tel que nous sommes, et c'est bienfaisant juste d'entendre cela, d'entendre ce tu es, Simon, avec les équilibres que j'ai essayé de nous donner. Mais Jésus sait également ce qui nous conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour cela que Jésus ajoute, tu es Simon, le fils de Jonas. C'est la dimension passée de l'existence de Simon qui est soulignée ici. Jésus ne gomme pas ces liens importants qui font que nous sommes ce que nous sommes. La Bible n'oublie pas que nous sommes reliés et que nous nous construisons à partir de tout ce qui nous a précédé, de tout ce qui nous a amené dans notre existence à être ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus lui-même est présenté à deux reprises dans les évangiles, dans la chaîne d'une généalogie, et qu'il n'ait pas été le fils biologique de Joseph ne change rien. Le parent, c'est celui qui aime, qui éduque. Jésus, dans son humanité, a été formé par son père Joseph et par sa mère Marie. Nous sommes reliés à ceux qui nous ont éduqués. C'est une richesse, un enrichissement, quelque chose qui nous structure. C'est aussi parfois un lieu de frustration, une source de carence qui laisse leurs traces. Jésus n'élude pas cette réalité. Mais dans son regard sur Simon, il l'invite à intégrer qu'il est aussi le fils de Jonas, car c'est sa réalité. Et là encore, inutile de rêver d'autre chose, même si c'est à partir de là que chacun se construit. Alors on peut juste dire un petit mot là sur cette question de notre milieu familial. Ceux qui parmi nous ont eu un milieu familial aimant et équilibré peuvent d'abord être reconnaissants envers leurs parents, envers Dieu. C'est un capital immense qui a été donné, et ceci parfois pour la vie. Ne prenons pas pour acquis, pour normal, ce que nous avons reçu. Lorsque j'étais pasteur à l'église Tabernacle, nous avons eu l'occasion de rencontrer une personne qui était un rescapé d'une famille juive qui avait été sauvée par les pasteurs de l'église à l'époque d'une rafle des nazis, donc contre sa famille, et qui avait été recueillie par d'autres, avec d'autres enfants pendant toute la guerre dans un centre de vacances que possédait l'église. Ses deux parents ont été déportés et tués. Il avait 4 ans à cette époque. Et nous l'avons rencontré donc bien des années après, Et il nous a raconté combien c'était dur pour lui en tant qu'enfant qui avait perdu ses parents de se construire. Il était pupille de la nation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas cette affection des parents? Et il raconte comment un soir, quand il avait 5 ou 6 ans, une monitrice qui surveillait le coucher des enfants lui avait fait une bise sur le front en lui disant « Bonne nuit, mon chéri ». Et il disait « Ce moment a été mon premier moment de joie, de tendresse et d'émotion. Ce baiser m'a marqué. J'étais un petit garçon que quelqu'un dorlotait. » C'était impressionnant de dire quelqu'un qui n'a jamais reçu ça et de se dire voilà ce que signifie un baiser le soir au coucher. Certaines choses semblent si normales et pourtant ce sont de vrais cadeaux. Quand nous nous voyons fils d'eux ou fille d'eux, essayons aussi de penser à ce que nous ont apporté, nous ont transmis ceux qui ont pris soin de nous et dont nous vivons aujourd'hui. Et il y a ceux qui sont nos parents, il y a aussi ceux qui nous ont accompagnés dans notre cheminement, ceux qui ont de la route dans la vie, se rendre compte qu'on doit à tant de personnes qui ont été sur notre chemin. Quelle grâce! Mais il arrive aussi qu'être fils d'eux ou fils d'eux implique des blessures, des douleurs. Quand ça arrive, ce sont souvent des blessures qui sont profondes et cela demande du temps, cela demande du travail pour cicatriser. Si tel est notre cas, cette parole de Jésus peut aussi nous aider, sans être pour autant un remède miracle. Mais Jésus, quand Jésus dit « Tu es Simon, fils de Jonas », cela rappelle que Jésus sait aussi les blessures, les faiblesses, les difficultés dont nous avons pu hériter par notre passé. Mais cela ne représente pas un obstacle pour s'intéresser à nous, pour nous appeler, pour nous aimer, nous accompagner loyalement, fidèlement, nous faire grandir, nous restaurer. Et puis surtout, Jésus nous rappelle que Simon est d'abord Simon, avant d'être le fils de Jonas. Et le « tu » qu'il adresse à Simon en disant « tu es Simon, fils de Jonas » est un « tu » plein d'espérance, parce qu'il dit « tu seras ». Mais c'est aussi d'une certaine façon une responsabilité. Car il y aurait un danger à se complaire dans notre simple identité de fils d'eux ou de fille d'eux. On peut se dire, on peut s'installer douillettement, se laisser porter comme ces fils à papa qui ne vivent que par ce qu'ils ont hérité. Ou alors ça peut être une excuse en quelque sorte pour les manques en disant « je suis comme ça, victime de mon hérédité, victime des dysfonctionnements de ma famille, prenez-moi comme je suis, je n'y peux rien ». C'est à Simon que Jésus dit « tu » et ça c'est une responsabilisation. Un peu plus tard, il demandera à Simon de quitter son père pour le suivre personnellement. Simon est pour une part fils de Jonas, mais il n'est pas que le fils de Jonas. Il est d'abord Simon. Nous sommes plus que ce qu'on a fait de nous. Dans toute situation, il y a ce que nous pouvons être, ce que nous pouvons faire avec l'aide et la présence du Seigneur à nos côtés. Et c'est ce que rappelle Jésus ici à Simon, fils de Jonas. Tout fils de Jonas qu'il est, c'est lui vraiment qui prend en charge sa vie et c'est avec lui que le Seigneur va construire. Comme quelqu'un l'a dit, si je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, mais je suis responsable de la tête que je fais. Je trouve que c'est une sentence qui est pas mal et assez facile à se rappeler, mais qui nous rappelle que nous ne nous réduisons pas à une série de déterminations. Voilà pour cette petite part, tu es Simon, fils de Jonas. Mais la parole de Jésus dit aussi, tu seras. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, tu seras appelé roc. Le regard de Jésus ouvre un avenir et donne des perspectives. Simon, nous le savons, avait de vraies limites. Jésus, en s'approchant de lui, a préféré souligner l'avenir qu'il lui ouvrait. Ce n'est pas forcément comme cela que nous imaginons le regard de Dieu sur nous. Nous pensons souvent à ce regard comme à un regard qui relève surtout nos fautes, nos manques, nos lacunes. Le Seigneur est le Dieu saint, nous sommes pécheurs. Il a ses exigences morales, nous en sommes si loin. Il a ses œuvres à accomplir dans notre vie et nous sommes si insuffisants pour ces choses. Jésus a dit à Simon, « Tu seras Pierre le roc. » Et tout le monde savait que Simon était tout sauf un roc. On le connaissait bien, de bonne volonté mais impulsif, capable à tout moment du meilleur et du pire, de vraies qualités et les défauts de ses qualités. Et Jésus lui dit, « Tu seras roc. » Autrement dit, le regard de Dieu ne se bloque pas à ce qui ne va pas, à ce qui ne va pas dans nos vies. Ne se bloque pas sur les distances entre ce que nous sommes de fragiles et ce que nous pourrions être. Le regard de Dieu ne se bloque pas. Et parfois, nous avons tellement ce regard d'un Dieu qui nous condamne, qui nous juge, etc. Ici, nous avons vraiment un regard de Dieu qui est différent. Jésus a vu la transformation qu'il pourrait opérer dans cet homme. Et c'est une attitude constante de Jésus. Jésus ne se laisse pas aveugler par ce qui ne va pas en nous, chez nous. Il voit ce qu'il peut faire avec nous et en nous. Alors, il faut être clair, hein, ce texte ne nous dit pas pour autant que Dieu ne voit que du bon en nous, qu'il ne voit que du potentiel, qu'il ne voit que du meilleur. Jésus ne joue pas à la gonflette, hein, en disant « il y a tellement de potentiel en toi ». C'est ce qu'on fait aujourd'hui les coachs personnels en disant « valorisez votre potentiel, on vous en remet toute une couche sur tout ce que vous êtes, ce que vous pourriez être ». Jésus parle au futur, « tu seras roc hein ». Il dit pas « tu as les capacités d'un roc, tu seras roc, voilà ce que je veux faire de toi ». Ce texte ne nous dit pas que nous sommes tous magnifiques, mais il nous dit qu'il y a quelqu'un, le Seigneur, qui voit plus loin pour nous que nos fautes et nos faiblesses. Il y a quelqu'un, le Seigneur, qui est prêt à travailler avec nous et en nous pour que nous devenions autre chose que ce qu'engendrent justement nos fautes et nos faiblesses. Et cela, c'est infiniment précieux. Cela nous rejoint là où nous sommes, tout en regardant plus loin et en nous engageant aussi dans cette voie-là. Alors nous le savons qu'entre ce tu es et tu seras, entre ce tu es et voilà ce que je vise pour toi, nous aurons toujours besoin du pardon de Dieu et de son action transformatrice. Nous aurons toujours besoin de revenir à Dieu à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il désire. Mais jamais en faisant cette démarche, nous ne serons enfermés dans ce qui n'a pas été. Et c'est ça la force de l'Évangile. Jamais nous ne sommes enfermés dans ce qui n'a pas été. C'est pour cela que Dieu est le Dieu du pardon et le Dieu des recommencements. Le pardon qui nous est donné rétablit la relation avec Dieu. Et ce pardon veut être suivi aussi par l'action de l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle, qui nous transforme, qui nous permet de grandir vraiment. Et si nous lisons la vie de Pierre, c'est ce que nous découvrons. C'est remarquable de voir l'action du Saint-Esprit dans sa vie et de le voir, lui qui avait par exemple renié le Christ, ensuite tenir tête aux autorités. Une action qui vivifie, qui transforme, et Dieu qui vraiment peut voir plus loin, parce qu'il y a à la fois ce pardon qui maintient la relation, qui la renoue à chaque fois qu'il le faut, et ce pardon qui est suivi de l'action transformatrice de l'Esprit. Tu es, tu seras. Jésus dit à Simon, tu es Simon, tu seras roc. Chacun de nous, nous avons à découvrir ce que ça signifie pour nous. Nous ne sommes pas sur le modèle de Pierre, nous n'allons pas tous devenir roc fondatrice comme lui, mais chacun nous avons à découvrir ce que cela signifie pour nous, à le découvrir dans la marche avec Jésus. Découvrir que nos limites peuvent être autre chose que des barrières. Certaines limites peuvent nous orienter. Tu ne parles pas forcément très bien. Mais sais-tu combien de personnes ont besoin d'être écoutées? Et si tu ne parles pas forcément très bien, offre ton écoute. Tu n'es pas fort dans un domaine, Vois la façon dont Dieu peut se servir de toi dans un autre domaine. Mais d'autres limites peuvent devenir un puissant témoignage de la façon dont Dieu peut transformer une vie, transformer un caractère, transformer des relations si nous lui demandons vraiment de nous changer. Ne nous laissons pas arrêter, ne nous laissons pas bloquer par nos limites, ni par les nôtres à nous, ni par celles des autres, pour les juger ou les enfermer. Mais recevons vraiment de Jésus ce regard qui voit plus loin. Tu es, mais tu seras. Tu es, mais tu seras. Cherchons dans la Bible des exemples qui nous donnent des instructions ou des promesses qui montrent ce vers quoi Dieu veut nous faire avancer. Accrochons-nous à ces promesses. Prenons-les vraiment au sérieux. Demandez à Dieu de les réaliser en nous. Attendons-nous vraiment à lui. Tu es, tu seras. Tu es avec ce que tu as été, mais tu seras encore. Alors évidemment, pour les uns et les autres, la relation entre le passé et l'avenir n'est pas au même niveau dans nos vies. Hein. Selon l'âge que nous avons, le curseur entre le passé et l'avenir se déplace. Hein. Et à un moment donné, on a l'impression que, oulala, il y a beaucoup de passé, on ne sait pas ce qui est devant, en regardant les choses. Hein. En tout cas, quel que soit l'endroit où nous sommes, au curseur de nos vies, ne considérons jamais qu'il n'y a plus de « tu seras » pour nous. Le Seigneur Jésus a toujours quelque chose encore à nous apprendre. Ne nous disons jamais « j'en suis arrivé là, c'est fini ». Non, le Seigneur, tant que nous sommes dans la vie, le Seigneur a encore quelque chose à faire pour nous. Ne nous bloquons jamais sur quoi que ce soit en disant « mais Seigneur, que veux-tu que je sois aujourd'hui, demain ?» Gardons toujours ce regard. Et puis, lorsque le curseur sera arrivé peut-être tout au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il reste ? Toute l'éternité devant nous. Toute l'éternité et le « tu seras » que le Seigneur nous tient en réserve. Pensons vraiment à cela et restons toujours dans l'espérance, dans l'attente et dans la fidélité envers le Seigneur qui, de ce que nous sommes, avec ce que nous avons été, nous dit encore « tu seras, j'ai encore des plans pour toi. Il y a encore des choses à changer dans ta vie. Il y a encore des utilités pour toi. Et puis il y a tout ce que je tiens en réserve pour toi. » Jésus, dès sa première rencontre avec Pierre, voit plus loin pour lui. Mais s'il en est ainsi, c'est parce que son regard n'est pas un simple regard de spectateur. Mais le regard de Jésus est le regard de quelqu'un qui s'engage à nos côtés. La force du « tu seras Pierre le roc », c'est vraiment l'engagement de Jésus aux côtés de Simon et à nos côtés pour notre vie. Jésus s'est impliqué dans la vie de Pierre. Il l'a montré pendant toutes ces années où Simon était encore son disciple. Il a gardé cet engagement malgré les défaillances de Pierre. Et alors que Pierre devait le trahir, Jésus a dit « mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point ». Un accompagnement qui va jusque dans nos défaillances. Il connaît nos défaillances, comme dit le cantique, hein, nos chutes de chaque jour. Mais fidèle en ses exigences, il est riche en son amour. Il a promis aussi, avant de laisser ses disciples, « je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation du but que j'ai pour vous ». Et vraiment, c'est quelque chose qui doit nous aider de nous dire qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui fait le lien entre « tu es » et « tu seras ». C'est le fait que Jésus vraiment s'engage à nos côtés. Jésus est le grand « je suis ». Et ça m'a vraiment frappé de dire entre le « tu es » et « tu seras », il y a Jésus qui peut dire « je suis ». Hein ? « Je suis le bon berger. Tu n'as pas à craindre pour ta vie, je suis là avec toi. Je suis le pain de vie, tu peux compter sur moi pour te nourrir et avancer chaque jour et pour la grâce pour chaque jour. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Tout ce qui est mort en nous peut vraiment ressusciter. Et il y a cette espérance formidable de la résurrection des morts, de l'éternité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ce qui nous permet d'unir le « je suis » d'aujourd'hui et le « je serai » auquel le Seigneur nous appelle, c'est ce grand « je suis » qu'est Jésus. C'est ce qui permet de dire « tu seras ». C'est ce qui nous ouvre un avenir. Et nous visons tous de ce grand « je suis » qu'est Jésus, le grand « je suis ». Alors oui, nous aussi regardons plus loin, regardons courageusement, encore et encore, à lui, à son appel, à son projet pour nous, à son attachement à nous. Ne nous contentons pas de rester là où nous sommes, ayons à cœur de marcher de progrès en progrès, mais vraiment comptons sur le Seigneur. Il veut agir en nous par sa parole, par son esprit. Et il nous dit, il nous rappelle ce matin au travers de cet exemple, « Tu comptes pour moi, ne t'installe pas, avance vers ce vers quoi je t'appelle. Tu es. » Tu seras, et je suis pour toi, le grand je suis. Alors comptons sur le Seigneur, continuons à avancer vraiment avec lui les uns les autres, par sa force toute puissante. Amen.